Club.
Vous êtes ici?
Oui.
Bonsoir et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique pour ce rendez-vous inclusif et quotidien de toute la scène française. Côté club, c'est l'actualité musicale avec celles et ceux qui remettent le son ce soir. Dominica, Philippe Dupuis et Maud Lubeck, bonsoir à vous trois.
Bonsoir.
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 J'ai entendu tout le monde, c'est parfait, j'ai fait l'appel. J'aurais voulu faire de la bande dessinée, mais qui parle? Dominique A, qui fête les 30 ans de son premier album La Fossette, ou le dessinateur Philippe Dupuis? J'aurais voulu faire de la bande dessinée. C'est une bande dessinée signée Philippe Dupuis avec Dominica à l'intérieur et un spectacle concert scénographié dessiné avec l'ambition affichée de faire de l'art contemporain. 10 ans de discographie pour Maud Lubeck, ça se fête avec un quatrième album, 1988, Chronique d'un adieu. 11 titres qui font le deuil d'un amour disparu à l'adolescence, un album en forme de chronique cinématographique, superbement orchestré et porté par les voix de 3 actrices, Irène Jacob, Clotilde M et Nicole Garcia. Florent Marché est de retour et de justesse, c'est le titre de sa nouvelle chanson à retrouver au téléphone avec Marion Guilbeault vers 22h30. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Après mon cœur teenager qui disparaît dans la nuit.
Ne pas être l'otage du temps présent demande bien du courage. Pour trouver ce courage, nous avons tout le temps. Réglons-le maintenant sur un rythme plus sage. Sur un rythme plus lent.
Ce duo merveilleux, mais c'est de la fiction, c'est un mix signé Stéphane Le Guenec.
Incroyable.
Entre vos deux voix, merveilleux.
Oui. Je me disais, mais quand est-ce qu'on fait ça?
Jamais, vous ne l'avez jamais fait.
Je ça s'est réalisé ce Alzheimer son... et... putain la vache.
Vous voyez, très très inquiet.
C'est dingue.
Parce que ça marchait formidablement
bien. Carrément.
Ouais, oui. Les tonalités sont différentes, mais les consonances marchent.
Mais c'est dingue.
Oui. Vous n'y avez jamais pensé à faire un duo ensemble?
Bah non, mais bah, en fait,
là,
non.
Là, franchement, remarquez, vous n'avez pas besoin de le faire.
C'est fait.
Mix ici,
bah, c'est fait.
C'est fait, exactement. Un mix entre Au voleur, un titre de votre nouvel album, Maud Lubeck, et vous vous êtes reconnue, Dominica, ce que vous racontiez?
Mais ouais, mais je me suis dit, mais attends, c'est pas...
C'est le mot que vous aviez envoyé à Didier Varro pour l'hypernuit.
Oui.
Ça, c'est ça. Vous
oui,
n'étiez
oui,
pas
c'est
là,
ça,
mais vous aviez envoyé
ça.
Un mot parce que c'était
d'accord.
Clara Isé
ouais.
Et Léonie
mais
Pernet.
C'est dans la tonalité, donc ça fonctionne.
Ça fonctionne.
Vraiment bien.
Tous les deux, vous fêtez des anniversaires ce soir. 30 ans de discographie pour Dominica, puisque c'était la sortie de La Fossette en 92. Pour vous, Maud Lubeck, 10 ans, sortie de La Fabrique en 2012. Mm-hmm. Ça marche. Je vous présente Philippe Dupuis. Une star de l'art contemporain et de la BD. On va y revenir dans quelques instants. Maud Lubeck, je relisais un questionnaire auquel vous répondiez il y a quelques années. À la question, le premier album qu'on t'a recommandé, parce qu'en plus on vous tutoie, paraît-il, vous répondiez Dominica La Fossette.
Oui.
À la question, la première reprise que tu as chantée, vous répondiez Dominica Sous la neige. Oui. Qu'est-ce que Dominica a pu représenter pour vous dans ce parcours musical?
Suite à cette fois où on m'a dit tu devrais aller écouter Dominica, je suis allée écouter Dominica et j'ai découvert l'album de La Fossette et il y avait cette chanson Le courage des oiseaux. Et en fait, moi, cette chanson m'a donné beaucoup de courage parce que à l'époque, c'était mes premières maquettes que je faisais à la maison et de voir que voilà, il était possible de faire un album seul chez soi, c'était important pour moi.
Vous avez suivi le parcours de Maud Lubeck, j'imagine.
Oui, complètement. Oui. J'aime beaucoup ce que fait Maud. Enfin, bon, voilà, ça va être un échange de.
Ouais.
Je suis désolé, mais c'est vous qui l'orchestrez.
Voilà. Hein, non, mais ça va s'arrêter là. J'ai horreur de ça. Bon, vraiment, c'est le truc.
Mais non, mais bien sûr. Non, mais oui. J'ai beaucoup écouté l'album de Maud, de La Fabrique. On avait fait des scènes ensemble.
Tout à fait.
Et puis j'ai suivi évidemment après son parcours, son répertoire.
Jusqu'à ce nouvel album aujourd'hui.
Que je ne connais pas encore.
Il sort le 11 février.
Ouais.
Mais c'est normal.
Mais donc voilà, je trouve que, enfin alors, voilà, je vais pousser la flagornerie jusqu'à dire que pour moi, Maud est une des meilleures autrices compositrices de ce pays, et que voilà, on est dans un pays de sourdingue, donc il faudrait que ça se réveille, quoi.
Mais ça va se réveiller ce soir. Maud Lubeck, je vous présente Philippe Dupuis, un héros de la BD depuis les années 80. Il est étendu avec Charles Berberian. Monsieur Jean, Grand Prix Angoulême 2008, c'est lui. Bienvenue à Boboland, c'est encore lui. Et depuis quelques années, il joue en solitaire. Il travaille la bande dessinée en artiste, croise les disciplines. On va parler de tout ça. Vous avez une culture de BD, Maud Lubeck ?
Alors moi, j'adore les romans graphiques. J'en lis beaucoup. Enfin, ça va de alors là voilà, je vais avoir un trou énorme,
c'est toujours comme ça, ne vous inquiétez pas,
mais ça va de ça à ça, il y en a beaucoup.
Ah ouais, j'aime beaucoup le ça surtout.
Ah, et tout ça quand même.
Bah, dans le Tennessee apparemment ils aiment pas beaucoup le roman graphique Mouse en ce moment.
Oui.
De Art Spiegelman.
Ah oui, j'ai vu ça. Oui.
Ah, c'est hallucinant quand même, cette histoire.
Qui a été retiré d'une bibliothèque, je crois, pour raison, parce qu'il y a des gros mots.
Ouais.
Et des images de nus. Comme c'est un récit sur l'Holocauste, on peut identifier à quoi correspondent des images de nus.
C'est ahurissant.
C'est dingue.
Ouais. Quelle culture musicale pour vous, Philippe Dupuis, qui avait dessiné aux côtés de Dominica, de Rodolphe Berger, de Moriarty, de Pierre Bastien.
Voilà, déjà tout ce beau monde. Et je crois que le plus ancien que je connais dans tout ça, c'est, excuse-moi Dominique, mais en même temps, tu
fêtes de mettre au milieu.
Non, mais tu fêtes tes 30 ans de discographie, donc ça te pendait au nez, c'est toi. C'est toi que j'ai écouté, je pense, avant même Rodolphe et Moriarty, qui est le groupe le plus récent. Bah, après, beaucoup de choses. Hein.
Mais vous vous êtes construit avec quelle musique, vous? Parce que vous étiez pianiste au départ, enfin vous jouiez du piano, pas pianiste.
Oui, j'étais pas pianiste, j'ai commencé le piano à 6 ans, voilà. J'ai arrêté à 12 ans et j'ai commencé à jouer de la guitare et des choses. Je devrais pas dire ça devant Dominique parce qu'il va vouloir transformer des choses sur le spectacle, mais...
ne rêvez pas non plus.
Non, moi je suis d'une formation, j'ai une mère, une maman qui jouait du piano classique, j'ai appris le piano classique et puis après... Après, quand je suis quand même, je fête pas mes 30 ans, moi, mais au moins mes 40 ans de bouquins, j'étais plus dans les, voilà, c'était les belles années 70, avec l'arrivée, par les disques de ma sœur, de Simon & Garfunkel, voilà.
Cette culture-là.
Ouais, et puis après, les Lou Reed, tout, voilà.
On va reparler de tout ça dans quelques instants.
En deux secondes, quoi.
1992. Vous sortez La Fossette, Dominica, un marqueur dans l'histoire de la chanson française. On a retrouvé votre première prise de parole très affirmée au micro de José Arthur.
Dominique, vous avez fait un disque entièrement seul, fait à la main. Vous avez fait ça dans votre cuisine?
Non, dans ma chambre.
Enfin bon.
J'en ai marre qu'on parle de cuisine.
Oui, c'est pour ça que je vous prends à l'office de la radio. Et vous avez fait ça avec des petits bidules, des moulins à café, des boîtes de conserve.
Ouais.
Et tout le monde en parle comme si vous aviez eu le Cleveland de Philharmonique.
Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui bricolent comme ça. Enfin, le terme de bricolage commence à me casser un peu la nénette. Mais
non, tout vous casse la nénette alors.
Ouais, je pense que
beaucoup de choses vous cassent la nénette.
Beaucoup de choses me cassent la nénette. Mais les gens mettent l'accent sur l'aspect bricolo, mais je pense que moi, je m'évertue avant tout à faire des chansons, quoi. Et si les chansons avaient aucune valeur, le côté bricolo, ça passerait à l'as.
Non, mais surtout, vous l'avez fait, ce que vous n'aimez pas entendre, qu'on va oublier, c'est parce que vous n'aviez pas non plus les moyens.
Quand on veut se donner les moyens, on se les donne, quoi. C'est pas le problème. Moi, je voulais faire un truc comme ça, justement, pour prouver certaines choses, pour prouver que les chansons étaient plus ou moins indépendantes de tout un système de plus en plus gros, quoi. Enfin, ça n'a pas été fait par-dessus la jambe non plus, quoi. Je veux dire... L'idée, c'était pas de se foutre la gueule du monde, c'était vraiment d'apporter un truc, un son en rupture avec le son lambda, quoi. Je vais pas donner dans le minimalisme toute ma vie, quoi. J'ai l'intention d'évoluer aussi.
C'était pas mal. Moi, je trouve que pour un premier entretien, vous étiez très affirmé, très articulé. Vous ne vous en laissiez pas compter, justement. Ouais.
Un vrai merdeux, quoi.
Non, mais pas du tout.
Mais
du
je me
tout
souviens, José Arthur.
Conscient de savoir ce qu'il voulait faire dans la musique.
Face à José Arthur.
Ouais, José Arthur, il m'avait dit un truc, c'était pas tout à fait hors antenne, c'était un peu un autre discours. Il m'avait dit, en fait, vous êtes comme moi, vous en foutez, quoi. Et donc, voilà, c'était.
Bah, non.
Voilà, hors antenne, à l'antenne.
Ouais. Sauf que non, vous ne vous en foutiez pas du tout.
Non. Et puis lui non plus, je pense pas qu'il s'en foutait.
Non, pas à ce point-là.
Mais, non, non, non. non, je m'en foutais pas du tout. Hein, non, j'étais, bah bon, on a bien vu, j'étais une teigne.
Hein. Non, mais vous
avez. J'ai pas changé.
Vous étiez très conscient de ce que vous portiez à ce moment-là dans la chanson.
Non, j'essayais de me défendre. En fait, j'essayais de voilà, j'étais assailli par. Je venais de Nantes. Il y avait pas de public autour de moi. Il y a pas de gens qui me suivaient. Puis du jour au lendemain, il y avait des gens qui me suivaient et des échos et des commentaires. Et donc, j'étais submergé par ça. J'étais jeune, donc j'essayais de me défendre, faute de me détendre.
J'aurais voulu faire de la bande dessinée. Voilà un énoncé très intrigant donc, qui vous réunit, Dominique A. et Philippe Dupuis, à la fois dans un album chez Futuropolis et pour un spectacle. Alors d'abord l'album, Dominique Dupuis, ça y est, j'ai mélangé les deux.
Il en existe un.
Il en existe un, c'est un chorégraphe.
Et un quelqu'un qui était éditeur aussi.
Philippe Dupuis, bon, enfin, c'est vous qui vous interrogez sur ce qu'est la bande dessinée, en tout cas ce qu'elle est pour vous. Vous remontez à ce que vous aimiez enfant, Picsou, puis plus tard Druyer des années plus tard, bref, les fondamentaux. Mais pour aller plus loin sur ce questionnement, c'est qu'est-ce que c'est que la bande dessinée ? Eh bien, vous croisez vos réflexions avec deux musiciens, Stéphane Oliva, pianiste jazz, improvisateur de génie, qui fait partie du spectacle,
exactement.
Et vous, Dominica, deux musiciens qui ont en commun la passion de la bande dessinée. Oliva, on l'apprend, a failli devenir dessinateur, mais le jazz l'a sauvé. Et vous, Dominica, oui. Vous avez adoré Métal Hurlant sous ces années-là. Puis les années 80 sont arrivées, vous avez trouvé que c'était un peu moins intéressant dans la BD. Et la musique a pris le dessus.
L'a sauvé aussi.
D'abord une chose, Dominica, c'est pas la première fois que vous êtes un personnage de bande dessinée.
Oui, tout à fait.
Déjà, vous l'étiez dans Dominica, j'aurai ta peau, de Oliver Balèze et Arnaud Gouet-Fleck.
Oui, oui.
Qu'est-ce qui se passe avec ce visage?
Ben, je sais pas. Et en fait, il y a aussi Edmond Baudouin qui est un grand dessinateur, hein, qui m'a récemment dessiné. Il y a Luce aussi qui m'avait croqué. Donc, je pense que c'est lié à la forme de mon visage qui est assez, c'est assez facile à me dessiner. Vous prenez un ballon.
Un rond.
Un ballon, un truc ovale.
Ouais.
Puis avec un gros nez, puis c'est bon, on y est, quoi.
Moi, donc, je pense pas que ce soit ça.
Philippe,
plus sérieusement,
c'est pas ça,
en fait,
ouais,
c'est que les dessinateurs de bande dessinée travaillent énormément en musique. Et tu es, on l'a compris, quelqu'un qui a marqué toute une génération, on t'a beaucoup écouté, et du coup, il y a comme un lien, comme ça, dans l'air, qui se fait, et cette envie de nouer des contacts,
mais mutuellement,
voilà. Et donc,
je me suis désolidarisé de la bande dessinée dans les années, effectivement, 80, mais après, j'y suis revenu, et c'est un domaine qui me passionne.
Dominique, très très grand lecteur, il lit beaucoup plus de choses que moi.
Il a toute sa collection de comics qui est à l'intérieur de l'album.
Exactement.
Ici. Oui.
Et là, tout à l'heure, il m'a dit, il faut que je trouve du temps pour aller en librairie là. Là, on est à Paris, il faut que j'aille dans les librairies, tout ça. Je dis, mais calme-toi, tu vas pas ramener tout ça, enfin.
Alors, l'album est vraiment passionnant. Après, on parlera du spectacle. Mais
merci.
L'album est passionnant car vous interrogez la bande dessinée à l'aune de la musique. Et vous travaillez alors le dessin, la page, mais pas du tout comme un auteur de bande dessinée classique, parce qu'un auteur de bande dessinée classique, il a déjà son histoire, il a son synopsis, il remplit les cases, mais il a déjà l'histoire. Or, vous travaillez, en fait, en improvisateur. Mmh. Justement parce que vous êtes au contact d'un improvisateur qui est Stéphane Oliva et d'un musicien qui est Dominica.
C'est exactement ça. Moi, j'ai plus envie. Je l'ai fait un petit peu, la bande dessinée, en tant que, je dirais, d'exécutant. On écrit l'histoire et après on la met en image. Le travail de Stéphane Oliva en tant que musicien de jazz ou Sébastien Boisseau qui joue avec nous à la contrebasse, c'est vraiment des improvisateurs, c'est-à-dire qui font les choses, se construisent en faisant. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Moi, j'avais envie d'une bande dessinée beaucoup plus ouverte, expérimentale. Et l'idée du livre, je me suis dit, je peux pas raconter cette envie de faire de la bande dessinée sans sans tenir le propos en faisant. Donc à chaque page, il fallait que je trouve quelque chose qui soit de l'ordre de l'expérience, de l'invention, si possible. Ça peut paraître effectivement assez prétentieux. Le problème, c'est pas de savoir si je vais y arriver, en fait.
C'est de le faire.
Et après, je livre ça au lecteur, il en pense ce qu'il veut. Alors après, les réactions ont plutôt été intéressantes, d'ailleurs, par les amis dessinateurs qui m'ont dit, ah ouais, c'est marrant, tu laisses tout apparent, les collages, les choses, les scories,
repentir.
Et il y en a même un qui m'a dit, mais je comprends pas pourquoi je me fais chier à tout corriger, en fait. T'as peut-être raison. Voilà. Disons tout et laissons le lecteur faire là-dedans, sa promenade.
Vous qui connaissez maintenant Philippe Dupuis à la scène comme dans le dessin, est-ce que ça a pu avoir une influence sur la façon que vous avez, non pas de faire de la musique, mais de penser votre propre musique, Philippe, Dominica?
Non, j'irai pas jusque là. Non. Pour moi, non. Moi, je prends avec Philippe. C'est un échange justement. On se retrouve sur des tas de terrains. En fait, nos pratiques sont différentes, évidemment.
Mais vous posez les mêmes questions, hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait de l'art?
Oui.
Et la réponse est oui. En tout cas, c'est ce qu'on veut faire. Oui.
Moi, je me pose pas la question.
Vous le savez.
C'est un mélange, en fait. C'est aussi un côté artisanal, mais pour moi, pour moi, l'art, c'est simple. C'est pas, je mets pas la majuscule à tout prix. C'est quelque chose de naturel, en fait. Il y a pas, c'est à la fois le truc au bout du chemin, c'est-à-dire de faire de l'art. Et puis, en même temps, c'est une pratique quotidienne, quoi. J'y mets pas le truc de prétention ou je ne sais quoi, que faut pas avoir peur de ça, je crois, tout simplement.
En tout cas, c'est une question que vous partagez tous les deux.
Ouais. Ah oui, moi, quand je suis allé voir Dominique, c'était très, très intéressant parce que j'ai fonctionné sous forme d'entretien, même si on se connaît avant. Oui, je les ai filmés. Et puis, donc, avec Stéphane Oliva, on a beaucoup parlé de pont entre le jeu du piano et le jeu du crayon ou de la plume ou voilà, le jeu du dessin. Avec Dominique, il y avait cette histoire de beaucoup de la position de l'artiste ou pas, ou de l'artisan. Dominique a dit quelque chose que j'aime beaucoup, que du coup j'ai voulu garder dans le spectacle. Il dit, on est dans un pays très littéraire, les écrivains ont un poids sur les épaules énorme de cette espèce de lourdeur de l'institution, et des fois ils aimeraient peut-être de légèreté. Et nous, en fait, on est dans quelque chose de léger, et on essaie d'apporter un peu de poids. De gravité à cette œuvre.
Ce qui ne veut pas dire pesanteur.
Non, ça n'a rien à voir.
Peut-être de profondeur. J'aime beaucoup cette image-là.
Alors sur scène, justement, je me suis demandé, qu'est-ce que vous allez chercher? Pas faire juste de la bande dessinée, c'est pas ça le sujet.
Non.
Qu'est-ce que vous cherchez à faire ensemble sur scène? Dominica d'abord.
Alors là, en l'occurrence, c'est vraiment... moi, je considère que je suis un participant à ce spectacle. J'en suis ravi, d'ailleurs. Mais c'est vraiment le projet de Philippe Dupuis et de Stéphane Oliva, à la base. De transposer ce livre sur une scène. Donc, ce qu'on cherche après, c'est tout simplement une articulation entre le propos de Philippe et puis un propos musical, en fait.
Oui, mais des concerts dessinés, on sait ce que c'est.
Ce n'est pas du tout le cas.
Là, il y a un aspect scénique. Des concerts dessinés, j'en ai fait beaucoup avec Charles Berberian, Rodolphe Burger. Mais c'était un peu chacun à sa place. C'est un peu, voilà, il y a la musique et il y a le dessin. Et là, c'est vraiment comment faire une œuvre créée pour le plateau, avec tout ce que ça veut dire en termes de dramaturgie, de récit, d'image. Là, on a quand même des couches qui se superposent avec le texte, le dessin et la musique. Donc, c'est pas de la bande dessinée. Ça m'est arrivé, je me souviens, dans des concerts avec Rodolphe Burger, où j'avais des aficionados de la bande dessinée qui disaient, ouais, elle est où la BD quand vous jouez? Je dis, mais elle est nulle part. On n'est pas, la BD, elle est bien dans un livre. Elle est très très bien dans un livre. Là, on est au plateau. Je vais pas faire la même chose.
Alors, qu'est-ce que vous faites sur
quand
le plateau?
Quand je suis porté, on raconte cette histoire de notre rapport à la création, de l'enfance aux adultes qu'on est devenu. Il se trouve que moi, je suis le seul on est quatre sur scène. Je suis le seul à avoir gardé ce cap de la bande dessinée qui maintenant, en plus, déborde sur d'autres domaines, mais qui sont quand même des domaines visuels. Et par exemple, Dominique et Stéphane Oliva, qui se sont vus à un moment auteurs de bande dessinée, sont devenus chanteurs et pianistes, ce qui est formidable. Tant mieux pour nous. Mais il y a quelque chose que je trouve qui était chez eux déjà dans cette envie de faire de la bande dessinée qu'on retrouve dans leur travail. C'est des narrateurs, en fait. C'est aussi des narrateurs avec des sons.
Vous continuez à dessiner ou vous êtes remis à dessiner?
Non, pas du tout. Mais aujourd'hui, j'ai tout balancé. J'ai montré mes premières planches à Philippe.
Il est terrible parce que quand on s'est vu, quand on a discuté, il m'a rien sorti. Il me dit, c'est parce que tu m'as pas demandé.
Et
il a des cépages.
Et alors, comment?
Le livre est sorti. J'ai les pages qui arrivent maintenant, les dessins. Et alors, c'est comment?
Non, mais aujourd'hui, je ne sais plus. Enfin, j'avais une pratique à cette époque. Enfin, quand j'étais adolescent, je m'y voyais, en fait. Et puis je ne dessine plus, mais je suis toujours aussi fasciné par le dessin. Ouais.
Autre chose que vous avez en commun, et c'est très intéressant parce que ça peut rejoindre aussi Maud Lubeck, c'est la question de la popularité. Ouais. Il y a des pages où l'on vous voit chacun en société. Donc les gens que vous rencontrez vous demandent ce que vous faites. Alors vous vous dites, je fais de la musique, vous vous dites, je dessine. On voit les gens un peu interloqués. Ah oui, vous avez fait quoi? Donc vous citez des choses, vous vous dites que vous avez travaillé au bout du compte pour Jane Birkin et pour Calogero. Donc là on voit que les visages s'animent. Mais quand on on vous demande vos noms, personne ne voit qui vous êtes. Est-ce que vous en souffrez pour que ce thème-là soit présent dans cet album?
Oh oui, je
poserai la même question à Maud Goubet. Je pense qu'elle doit vivre la même chose.
Ça m'emmerde, moi, à force de devoir me justifier. Alors c'est marrant parce que c'est une espèce de double truc où à la fois il y a un public qui me suit, qui est là,
oui,
grâce auquel je j'existe et qui me met sur un piédestal, et en même temps dans la vraie vie, dans la vie courante, je dois me justifier de qui je suis, que ce que je fais, et il y a un côté toujours très vexant, en fait. Voilà, c'est un dilemme qui est jamais résolu, mais en même temps que je ne concours pas à résoudre. C'est-à-dire que de par mon attitude, de par ce que je fais, de par mon discours, ma gueule, j'en resterai au même point. Mais c'est pas grave. Mon père m'a dit, tu seras connu quand tu seras mort. écoute. ouais, mais il a raison. Je crois. Donc, voilà.
Maud Lubeck.
Oui.
Ça vous arrive la même chose aussi.
Tu seras aussi connue quand tu seras morte.
Non, je dis c'est la même chose quand on vous demande
de vous être.
Vous dites chanteuse, donc j'imagine que tout de suite l'œil s'allume quand vous dites j'ai fait 4 albums, que vous donnez les titres.
Non, mais en fait je le précise même plus.
Enfin, vous dites quoi alors?
Ça devient gênant, c'est-à-dire que voilà. On voit que. Oui, mais en fait j'ai l'impression que les personnes, tant qu'elles vous connaissent pas, elles ont l'impression que vous n'existez pas, donc. On va me demander si je joue de temps en temps dans des petits cafés. Donc effectivement, dans ces moments-là, j'aurais envie de placer des noms de belles scènes que j'ai fait. Mais non, je fais rien.
Ce qui est terrible, c'est la commisération que vous sentez. C'est vraiment l'espèce de on sent l'espèce d'incrédulité ou ça c'est terrible.
En fait. Les gens sont même gênés de ne pas vous connaître.
Ouais, c'est ça. Enfin, il y a un truc comme ça. Bon, après on noircit un petit peu,
oui,
le tableau.
Parce que véritablement, ce nom, il circule. Moi, et pour vous, Philippe Dupuy, parce que c'est le même problématique que vous posez.
Je suis pas sûr que les gens soient si gênés que ça de pas nous connaître. Il y a un vrai doute. Ce type est mythomane.
C'est ça.
Ou cette femme est mythomane. C'est pas vrai, parce que quelqu'un qui fait dont c'est le métier et tout, on le sait, quoi. Moi j'ai vraiment ça. J'ai des gens en face de moi qui me disent, non mais la BD, j'adore, j'en lis plein, parce que il y a Lucky Luke,
oui,
on a
sûr.
Lu Astérix et Lucky, donc on est des spécialistes de BD. Et c'est quoi ton nom, Philippe Dupuy? Alors j'ai eu, ah ouais, c'est toi qui dessine Gaston Lagaffe. Les éditions Dupuy.
Ah oui.
Alors, plutôt que dire,
ils sont assez cultivés quand même.
Je voudrais avoir.
Connaissent le nom des éditeurs, c'est dingue.
Je voudrais avoir vraiment la répartie de ce film avec Bakri, où à un moment il est embêté, il fait semblant de sortir son téléphone. Excusez-moi, on m'appelle. Et puis partir comme ça. Mais j'ai pas la propos de faire ça. Et comme je le dis, après, je regrette juste d'être rentré dans cette discussion et de pas dire que je suis prothésiste dentaire. Ce qui est un métier fort appréciable
et lucratif
et très très utile dans
les conversations
et non dans sa vie dans ma vie ça peut être
mais c'est un parfois. Sujet hein. c'est un sujet
sûr,
c'est, un truc, c'est un vrai sujet parce que en fait globalement on devrait, à partir du moment où on vit de son activité, on devrait pas se préoccuper de ça. Donc je pense que c'est lié à des perceptions générales, c'est lié à de l'orgueil, c'est lié à beaucoup de choses.
Mais ça vous arrive, Laurent Goumar aussi ou pas? Parce que je me pose la question en vous voyant.
Moi, c'est impossible. Si je donne mon nom, tout le monde connaît, bien entendu.
Ah, là, c'est le truc.
Bien sûr. Mythomane, oui, vous venez d'en rencontrer. Hein. Dominika Loni était votre invitée côté club quand vous étiez venue la dernière fois pour une carte blanche.
Très bel album.
Ouais, on la retrouve ce soir avec ce titre, Comme la fin du monde.
Souffle, j'entends. Club
sur France Inter.
La dernière fois qu'on avait eu de ces nouvelles, c'était en 2020 pour son roman Le Monde du Vivant. Florent Marché revient à la chanson tout de suite et de justesse au micro de Marion Guilbeault.
Bonsoir Florent Marché.
Bonsoir Marion.
Bienvenue dans Côté Club. Ce soir, nous sommes avec Maude Lubeck, avec Philippe Dupuis et Dominica. Et je crois que vous connaissez assez bien ce dernier.
Tout se joue à l'école. Moi, je me suis toujours méfié. Il n'y a pas assez de contrôle.
C'est tout, c'est
pas la première fois dans la famille.
Tu rigoles.
Les camarades quartier, c'est bien.
Les juges bouffent à tous les râteliers.
Je suis sur ton heureux.
T'es comme les autres. Maintenant, il doit payer.
Il était comme les autres.
On n'a rien vu venir.
On n'a rien vu venir.
C'était On n'a rien vu venir. Hein. C'était en 2007, c'est ça, sur votre album Rio Baril.
Oui, oui, oui.
Quel souvenir vous gardez de cette collaboration avec Dominique ?
J'admire le travail de Dominique et ce qu'il est depuis des années. Et donc, il y avait toujours cette envie, confine un peu au fantasme, de le faire venir sur un album. Et je crois que cette chanson a été créée un peu pour faire venir des gens comme Philippe Catherine, Dominique.
Qu'on entend aussi,
que j'aimais beaucoup. Et puis c'est vrai que c'était amusant d'entendre Dominique dire avec un certain lyrisme, c'est comme le cousin à ma mère, ou ce genre de phrase. Voilà, ça nous avait amusé.
Retour à la chanson en 2022 avec Garden Party, c'est le titre de ce nouvel album qui arrivera pour le mois de juin. Je crois que ça fait 8 ans depuis Bambi Galaxy. Vous avez pris du temps pour revenir à ce format de la chanson. Vous avez fait des musiques de films, vous avez écrit un roman.
C'est vrai que j'avais moins envie. J'avais envie d'expérimenter d'autres choses. J'avais envie d'écrire mon roman déjà, parce que ça faisait des années que je ne me l'autorisais pas. Et j'ai fait pas mal de choses dans le milieu, on va dire, littéraire. Beaucoup de lectures musicales aussi avec des écrivains que j'admirais beaucoup, comme Laura Kaczynski, Véronique Ovaldé, il y a eu Nicolas Mathieu, Serge Goncourt, enfin plein de gens comme ça, et ça a été super chouette. Et puis j'avais envie de passer du temps aussi en studio, à faire de la réalisation pour d'autres, à composer pour d'autres. J'avais plus trop envie d'écrire des chansons pour moi, en fait. En tout cas, c'était pas une nécessité, et quand il n'y a pas la nécessité, je fais pas, quoi. Je vais pas me forcer non plus.
Alors j'ai lu que Garden Party serait un album familial sur lequel vous vous adressez à des enfants, à des adolescents. Ça ressemble un peu à un concept album. Hein. J'ai l'impression que vous êtes très sensible à cette façon de faire, d'imaginer un concept. Il y avait Bambi Galaxy comme un space opéra, il y avait le néo-western de Rio Baril. Est-ce qu'un album c'est forcément une histoire, un monde clos, Florent Marchais ?
Pour moi, oui, je crois. Enfin, c'est-à-dire que j'écris des albums sur une durée très très courte, donc c'est une période qui est infusée comme ça. Et ce que j'ai envie de raconter à cet instant-là, qui est très très court, en général, c'est un petit peu la même chose, mais c'est vu sous un angle différent. Donc là, c'est vrai que c'est... Qu'est-ce que c'est que devenir parent ? Qu'est-ce que c'est que d'avoir des enfants ? Qu'est-ce qu'on lègue ? De quoi on hérite ? Oh, j'ai l'impression de raconter tout le temps un peu la même chose, mais sous un angle différent. Je crois que c'est ça, en fait. Je suis pas sûr de me réinventer beaucoup, mais c'est vrai que là, j'avais envie de parler de ça. Je crois que le fait d'habiter aussi dans une sorte de suburbs à la française, avec des sortes de quartiers résidentiels, avec tous ces gens qui se côtoient, qui se frôlent sans se connaître, c'était tellement différent de ce que j'avais connu à la campagne. En fait, je m'installe toujours dans un décor.
Premier titre de cet album qu'on a découvert, ça s'appelle « De justesse ». Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous l'avez écrite et composée ? Est-ce que c'est le texte, la musique qui sont venus en premier ?
Ah, je me souviens très très bien, puisque c'est le premier morceau que j'ai écrit de l'album. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté de faire des albums ou de tourner. C'est que j'avais l'impression de ne pas voir mes enfants grandir. Je me suis rendu compte à un moment donné que ça passait très très vite, beaucoup plus vite. On a beau nous le dire depuis qu'on est môme, en fait, si, ça passe très très vite. J'ai repensé aussi à cette phrase de Louis Jouvet qui était j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. J'étais passé à côté, je la connais depuis longtemps cette phrase, mais qu'il y a un moment donné où elle percute vraiment. Et moi, je regarde mes enfants et je me dis à chaque fois que ça peut s'arrêter, et ça me permet, je pense, d'être une meilleure personne, en fait, je crois. Mais moi, j'ai tendance à imaginer le pire pour être mieux avec les autres.
Bah pour être mieux avec les autres, ça va être cette chanson de justesse, Florent Marchais. Merci beaucoup. Elle vient de rentrer
en
playlist sur France Inter. Et la voilà dans Côté Club.
Un noyau de cerise, 4 ans la chaise haute, et les doigts dans la prise, juste avant qu'on les ôte. de justesse. 12 ans, vif écorché, la rivière, les Cévennes, sauter du grand rocher et s'en sortir indemne. De justesse, promets-moi mon amour de passer ton tour. Promets-moi mon enfant de rester vivant. Les soirées du lycée, à faire plus que son âge, le pantalon baissé, fais-le ou tu dégages. En vitesse, ne plus rien avaler et peser sans mal-être. On allait se jeter, mais on ferme la fenêtre. De justesse, promets-moi mon amour. C'est ton tour. Promets-moi mon enfant de rester vivant. J'y pense tout le temps. Spiler, la bagnole qui va vite, ne rien faire à moitié et fêter ses 18. De justesse. C'est la nuit, c'est l'été, dans le ciel bleu pétrole, les platanes argentés, parfois on a du bol. Dans l'ivresse, promets-moi mon amour de passer ton tour. Promets-moi mon enfant de rester vivant. Promets-moi mon amour de passer ton tour. Promets-moi mon enfant de rester vivant. De rester vivant.
De justesse, signé Florent Marchais, un extrait de son nouvel album Garden Party, attendu pour juin. Il sera en concert à Nantes le 1er mars, au Printemps de Bourges le 23 avril et au Café de la Danse à Paris le 8 novembre.
Été 1988. J'ai tout juste 15 ans.
Côté.
Je suis secrètement amoureuse d'une amie de mon frère.
Club.
Personne ne le sait.
Sur France Inter.
Nous ne sommes pas dans le même collège, mais nous serons dans le même lycée à la rentrée. Je compte les jours et tiens pour elle un journal. Le 12 juillet, je suis hospitalisée d'urgence. À mon retour, 3 jours plus tard, ma mère m'annonce que des amis de mon frère ont eu un accident de voiture, qu'une jeune femme que je connais est morte. Je ne veux pas qu'elle me dise son nom.
La voix d'Irène Jacob qui plante le décor de ce quatrième album, 1988, Chronique d'un amour, c'est le vôtre, Maud Lubeck. Une autofiction en 11 titres, journal d'un amour qui n'a pas pu exister, une chronique portée, on va l'entendre et on l'entend par vous et par 3 actrices. Irène Jacob dans ce titre d'ouverture, Clotilde M et ensuite Nicole Garcia. 1988, c'est l'année de la disparition de cette jeune fille, de cet amour secret. Vous avez alors 14 ans. 2022, c'est cet album, c'est le retour du refoulé. Mm-hmm. Est-ce que c'est le temps qu'il a fallu pour s'autoriser à lui consacrer un album entier ?
Sans doute, ouais. Donc j'avais 15 ans et oui, il fallait ce temps-là, je pense. Pour j'écoute en même temps, en fait, ouais. Tout d'un coup.
La musique est derrière. D'autant ouais. Plus que cette musique-là, vous l'aviez déjà enregistrée à l'époque, les notes de piano que l'on entend. On l'entend d'ailleurs à la toute fin de l'album, avec au départ le clic de la cassette.
Nuit du vendredi 23 décembre 1988.
Enregistrée à l'époque ?
Toujours, c'est marrant parce que là on est vraiment dans ma chambre d'ado, ouais. Et en même temps on est sur France Inter, donc c'est un peu fou.
Et c'est la fin de l'album, et c'est la fin de l'album. Vous avez conservé toutes ces cassettes ?
Il y en avait une, et en fait, oui, il y avait ce magnétophone posé sur le piano, et voilà, sur lequel j'enregistrais toutes ces mélodies qui me venaient.
Suite à la disparition donc de cette jeune fille.
Voilà, c'était un petit peu, enfin c'était même très clairement mon refuge. Et c'est vraiment là que j'ai construit ce que je suis aujourd'hui en fait.
Exactement, parce que 1988, donc c'est la mort de cet être aimé. Et cette histoire, on l'entendait déjà au tout début de votre premier album, La Fabrique, dans ce titre, Mon amour en boîte.
Une boîte en bois, pleine de toi, j'ai gardé de vieux chewing-gums collés. Trois mots d'amour, un baiser, quatre clichés, tes cinq doigts dessinés, six tickets de ciné.
Maud Lubeck, est-ce qu'il faut considérer que les origines de la musique pour vous, en fait, sont douloureuses et tragiques, dès le départ ?
Là, oui. Ouais. Mais voilà, en tous les cas, c'est aussi parce que je ne suis plus dans cette douleur que j'ai pu écrire cet album-là.
Vous aviez déjà enregistré des titres avec des chansons que vous aviez écrites à ce moment-là ?
Moi, j'ai plein de cassettes. De toute cette époque, mais tout est sur cassette, un peu fait à la façon de La Fossette.
Et est-ce qu'il y a des mélodies qui vous ont servi par la suite ?
Il y a une mélodie, oui, avec laquelle j'ai écrite la chanson Virose. Mais sinon, non, c'est...
En 88, quelle adolescence vous étiez ? Qu'est-ce qu'il y avait sur les murs de votre chambre ?
Il y avait l'affiche d'un film de Charlie Chaplin. Je ne sais plus lequel, mais voilà. Sinon...
Il n'y a pas de chanteur, pas de chanteuse ?
Je crois pas.
Qu'est-ce que vous écoutiez comme musique ?
Alors,
en 88,
j'écoutais
15 ans.
Beaucoup de musique classique. J'écoutais aussi les chansons, enfin les albums. J'avais un frère qui collectionnait les vinyles et qui ramenait plein de choses à la maison. Mais après, moi, j'ai eu tout. Après cette période, voilà, en fait, c'est un petit peu une année de basculement pour moi. Musicalement, je me suis mise à aimer les chansons extrêmement tristes.
Et du Ce coup, sont les chansons qui soignent.
Voilà, et je me souviens que j'adorais Dead Can Dance, par exemple.
Oula. Ce groupe, en effet, c'est du lourd.
Cocteau Twins, toutes ces choses.
En même temps, c'est très doux.
Dominica, ouais.
C'est très doux en même temps. C'est à la fois. C'est très mélodique.
Oui. C'est très beau.
Quand vous aviez 15 ans, vous écoutiez quoi ?
15 ans, je sais plus. Je sais pas, les Cure.
Ah, vous aussi, d'accord, oui.
Oui, je sais pas. Enfin, je sais plus. Enfin, des tas de trucs. Hein.
C'est pas non plus la Fiesta. Les Cure.
C'est toujours compliqué ces histoires-là. C'est l'histoire des accords mineurs et des accords majeurs. Mmh. Mais quand les accords mineurs vous procurent de la joie, c'est la Fiesta.
Eh bien, c'est peut-être ce qui va arriver avec le titre que l'on écoute tout de suite. Hop, j'ai eu beaucoup de mal à choisir quelque chose dans l'album. Je voulais passer plein de titres, en fait. On en écoutait des extraits. Et je suis tombé sur « Mes lendemains ».
Mais que vais-je faire de tous mes lendemains? Durant tout ce chemin,
Quelque chose de très orchestré dans ce titre et dans tout l'album, alors même que vous auriez pu choisir le piano-voix hein, pour cette histoire douloureuse, Maud Lubeck. Une envie de bande originale de film, parce que ça sonne comme ça en fait.
Oui, mais j'avais envie de rendre cet album cinématographique en fait, comme c'est... moi j'ai le film de cette période en tête et je voulais aussi que du coup des images, enfin je voulais que des images puissent venir aussi... dans la tête de tout le monde.
Ça marche.
Et...
Oui, carrément. Ouais, carrément, ouais. Carrément.
Voilà, donc au travers des arrangements, au travers aussi le fait d'inviter des actrices aussi sur cet album, parce que voilà, moi, quand j'entends leur voix, j'ai tout de suite plein d'images.
Alors justement, on a entendu la voix d'Irène Jacob tout à l'heure, actrice,
oui.
Mais qui chante aussi, puisqu'elle a fait des albums avec son frère. Mm-hmm. Et puis il y a deux autres voix de comédiennes au rendez-vous, notamment celle-ci.
Le vent séchant mes larmes. Le soleil sur mes drames. Était-ce toi? Était-ce moi? Était-ce toi?
C'était moi.
Était-ce toi? Était-ce moi? Était-ce toi?
C'était moi.
Mon souffle sur tes larmes. Mon regard sur tes drames.
Un duo avec Clotilde M. Et c'est très intéressant parce que quand on choisit une actrice, quand on fait un casting, même pour un album, il faut bien que ce soit en résonance avec son parcours. Clotilde M. a chanté dans Les chansons d'amour, qui est aussi un film d'amour brisé, d'une disparition de Christophe Honoré. Elle a chanté aussi au théâtre. J'imagine qu'il y a cette dimension-là qui est importante pour vous, le film de Christophe Honoré, Les chansons d'amour.
Oui, c'est complètement en résonance en fait avec ça. Et Irène Jacob, c'était en résonance avec la double vie de Véronique.
Véronique sur une disparition aussi.
Voilà, et Nicole Garcia, c'est parce qu'en fait j'ai vraiment voulu faire l'album de mes 15 ans et que j'étais fan de Nicole Garcia à 15 ans. Donc
c'est une bonne raison.
Ouais. Il y a même des inflexions à la Alex Baupin. Est-ce que vous en êtes consciente justement dans certains titres?
Ah non.
Ouais, quelque chose qui ressemble à du Alex Baupin, période Les chansons d'amour.
Okay.
Autre titre, vous venez de l'annoncer, avec Nicole Garcia, et là la partition est absolument superbe.
Manger, boire, non, non. Se prélasser au soleil, non, non. Rêvasser, s'amuser, non, non. Rencontrer des gens, non, non. Tomber amoureuse. Rire aux éclats. Regarder une connerie à la télé. Écouter de la musique pop.
ne rien faire, voir des amis, rester légère, regarder le ciel, lire des choses futiles, dire des choses futiles, se faire plaisir, vivre.
Comment vous écoutez ça, Philippe Dupuis? Je vous vois très attentif.
Ouais. Oui, je trouve qu'il y a une matière dans les voix différentes avec tous les interprètes, au niveau du chant, mais aussi les voix des actrices avec les maturités différentes. Je trouve ça très très beau. Il y a quelque chose de la, il y a de la consistance différente. Et effectivement, ça évoque des images. Mais alors moi, il y a le côté cinématographique de l'image qui vient. C'est ça que j'aime dans la musique. Parce que je suis quelqu'un de visuel.
Bien sûr, ouais.
Mais c'est quasiment abstrait là. C'est-à-dire qu'il y a du végétal, il y a du minéral, il y a des choses comme ça.
Il y a un côté Bach aussi.
Bah oui, Bach. Mais j'écoutais Bach à 15 ans.
Ouais. Voilà. Et ça revient comme le retour du refoulé alors. Parce que là, il y a vraiment cette dimension là. On dirait des fugues de temps en temps dans la façon que vous avez
toujours
composé.
Eu ça chez Bondiac.
Ah voilà, je suis d'accord.
C'est vrai.
Je trouve, en fait, ouais, si je peux me permettre.
Oui, hein, oui, bien sûr.
Non, non, vraiment, j'avais toujours trouvé. Ouais. Dans des chansons comme Les Lacs Gelés, peut-être, ou sur l'album La Fabrique, justement, dont vous parliez tout à l'heure. Et d'autres, bien d'autres.
Hein. Mm. Le nom qui est répété, c'est vous qui le dites. Est-ce qu'il était dans votre journal intime, Maud Lubeck, dans celui que vous teniez à l'époque?
Oui, donc le journal qui a inspiré l'album, il y avait effectivement beaucoup de pourquoi, des pages et des pages de pourquoi, des pages de noms. Du coup, voilà, je pouvais pas éviter de faire deux titres avec ces mots-là.
Qu'est-ce qui vous plaisait en 1988 chez Nicole Garcia? Parce que Nicole Garcia, quand on pense à elle, on pense à une voix et surtout à un rythme très rapide. Je crois que c'est une des actrices qui parle le plus vite dans le cinéma français, avec Catherine Deneuve.
Ouais, mais alors, je sais que je l'avais découvert dans Mon Oncle d'Amérique. J'ai adoré ce film j'y pense souvent. Enfin, voilà. Et alors après, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête d'ado? Je ne sais pas, mais j'ai eu envie de revoir après tous ces films.
Pour la convaincre, qu'est-ce que vous lui avez raconté?
Ben, la magie de la vie qui fait que je connais quelqu'un qui la connaît et
ça aide.
Et qui me dit mais appelle-la. Donc, et là, je me suis retrouvée avec tous les personnages, toutes les voix de Nicole Garcia au téléphone. C'était assez fou. Et non, mais elle avait l'air convaincue. Elle a été touchée par cette histoire.
Sur scène, vous avez pensé à ce qu'un tel album pourrait donner?
J'y pense, ouais. Je voudrais continuer à dérouler l'histoire. Il y aura différentes formules. Là, je pense à une lecture musicale avec des extraits de journaux de deuil, d'auteurs. Et puis, sinon, voilà, c'est un petit peu en construction dans ma tête. Mais j'aimerais continuer à dérouler cette histoire.
Les journaux de deuil, vous pensez à celui de Roland Barthes, à celui de Jeanne Didion,
alors,
à celui de...
Roland Barthes, c'est sur sa mère, et là, ouais. je pensais plutôt à des recueils vraiment dédiés à l'être aimé. Bon, eh bien,
il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, ouais.
Maud Lubeck, en parlant de scène, je relisais un entretien de 2019. C'est pas si vieux, hein. Le journaliste ou la journaliste revient sur le succès critique de vos albums, sur le succès public et sur votre statut, la difficulté de gagner en popularité. On en parlait tout à l'heure avec Dominica et Philippe Dupuis, dans un monde musical dominé, elle le pense, par les musiques urbaines. Et elle a raison. Vous répondez. Je pense qu'il y a un public pour cette chanson, c'est-à-dire la mienne. J'aurais tendance à penser que le problème vient des diffuseurs, des passeurs. J'ai eu de très bons retours par la presse, le public, mais il y a un endroit où ça bloque. Par exemple, je ne passe pas en radio. Bon, ce soir sur France Inter, mais c'est vrai que vous ne passez pas, vous ne trustez pas non plus toutes les radios. Et je n'ai pas de tourneur. Et cette phrase m'inquiète, c'est-à-dire, est-ce que vous avez aujourd'hui, en 2022, un tourneur, Maud Lubeck?
Non.
Et pour quelle raison vous n'avez pas de tourneur? Ça veut dire quoi?
Je ne sais pas. Et puis,
Dominica.
Je ne sais rien. Parce que je vous ai dit, on est
mais
dans un pays de sourdingue. On est dans la France, est un pays de sourdingue. Voilà. Non, mais c'est. Oui, mais non, après.
C'est quand même dingue.
C'est compliqué, oui, c'est très compliqué. Après, on ne va pas nier qu'il y a énormément de gens qui font plein de choses. Il y a une production pléthorique et par moments qualitative.
Mais après, c'est vrai qu'il y a, des situations comme ça où on se dit, mais pourquoi? Et puis voilà, c'est... Moi, j'ai pas de réponse. Hein.
Ah non, non, mais je sais. Ça donne le vertige. C'est la radio, hein. Les vertiges. Malik Djoudi sur France Inter. Eh bien voilà, côté club, c'est déjà fini pour ce soir. Merci Dominica.
Merci à vous.
Merci Philippe Dupuis.
Merci.
J'aurais voulu faire de la bande dessinée. Ce sera le 9 et 10 avril au Pulp Festival. C'est à la Ferme du Buisson à Marne-la-Vallée. J'aurais voulu faire de la bande dessinée. C'est un album dessiné, Philippe Dupuis, publié chez Futuropolis. Et puis Dominica, j'annonce d'ores et déjà votre Olympia pour le 26 janvier 2023. Merci Maud Lubeck. Merci à vous.
Merci à vous.
Quatrième album, magnifique vraiment. 1988, Chronique d'un amour. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain...
d'un adieu.
Génial. Demain, pas de côté club, mais je vous retrouve dès 21h pour un concert énorme. Une triple affiche en direct et en public au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique avec Pete Doherty, Émilie Loiseau et Fishback. Côté club reprendra lundi avec Chasseur, Bigger et Luciole en live. Côté club, c'est l'équipe du soir qui vous tient par les deux oreilles. Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique, ils sont deux, Guillaume Rux et Maxime Goudard, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic, les as de la programmation et enfin Valentine Chedebois qui veille aux playlists. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.
On commence du début.
Côté.
Oui.
Club.
Bye. Bye.